France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. John Huston tournait encore lorsque fut diffusé pour la première fois sur France Culture le mardi du cinéma qui suit. C'était en janvier 1987. John Huston, célèbre, emblématique, mythique, et pour cause, le Faucon Maltais, le Trésor de la Sierra Madre, Quel Argo, Quand la Ville dort, Moulin Rouge, Moby Dick, Les Misfits, Freud, Passion Secrète, La Nuit de l'Iguane, Reflet dans un œil d'or, tout cela dans le désordre ou presque, et bien sûr et in fine, Jean de Dublin. John Huston, sa morale, les aventuriers flamboyants et jamais vaincus qui partent à la chasse au trésor et reviennent les mains vides. John Huston, qui aimait et qui aime les chevaux. Rediffusion d'un mardi du cinéma proposé pour la première fois sur France Culture le 24 janvier 1987.
La première fois que j'ai vu John Huston, c'était au Mexique, fin des années 50, chez une peintre française, Alice Rahon, qui vit là-bas. Et puis on a passé une soirée entourée de bouteilles de tequila et de mezcal, en train de discuter quel était mieux, le mezcal ou la tequila. Ça s'est très bien passé, on n'a jamais parlé de cinéma. Impression, un grand homme mince, très chaleureux, très drôle, grand sourire, une façon de parler américaine, comme ça, avec un grand cigare, et parler comme ça, très bien, un homme très chaleureux, très gentil, très simple, simple dans le bon sens du mot.
Il parlait de quoi ?
Tequila et mezcal.
John Huston, l'aventure. John Huston est né le 5 août 1906 dans le Missouri, du mariage temporaire de Walter Huston, acteur d'origine irlandaise et écossaise, et de Rhea Gore, journaliste américaine et turfiste. Tour à tour boxeur mi-lourd, officier dans la cavalerie mexicaine, dramaturge, journaliste et scénariste, c'est en 1941 qu'il devient metteur en scène et acteur épisodique. Le Faucon Maltais, son premier film, adapté d'un roman de Dashiell Hammett, est devenu un modèle sans prétention du film noir. Entre ce film et l'honneur des Prizzi qui date de 1985, il est l'auteur d'une quarantaine de films tournés à travers le monde. Productions homériques d'œuvres légendaires revisitées et portées à l'écran par John Huston, parfois avec perte commerciale, mais jamais avec fracas, tels Moby Dick ou La Bible, ou réunion à l'écran de grands écrivains et de grands acteurs à travers des contes d'aventures à la fois grandioses, intimistes et humains, tels Le Trésor de la Sierra Madre, Les Misfits, La Nuit de l'Iguane, Reflet dans un œil d'or, L'homme qui voulut être roi ou Au-dessous du volcan en 1982. À 81 ans, il tourne actuellement à Los Angeles un film adapté d'une nouvelle de James Joyce. Avec Juan Luis Buñuel, Suzanne Flon, Pierre Christin, Laurent Andrés, Jean-Marc Terrasse et Robert Benayoun.
Il est né dans le Missouri, mais enfin, il a été très tôt new-yorkais parce que ses parents, l'un au théâtre et l'autre dans la presse, étaient des gens qui travaillaient à New York Et il a été très vite partagé, si vous voulez, entre la vie de journaliste que menait sa mère, donc la tentation du journalisme, il en a fait, et il était correspondant de guerre même, et les courses, sa mère jouait aux courses, était une turfiste passionnée, et donc l'amour des chevaux est venu très vite, et donc et le théâtre, puisque son père était une grande vedette au théâtre, avant de devenir ensuite une grande vedette au cinéma. Et il s'est énormément identifié à son père. D'ailleurs, je crois quand même que le cabotinage de vie de Houston vient beaucoup de son père.
Mais je crois que c'était son grand amour, son père.
Ah oui, il était complètement épris de son père. Son père étant un cabotin, mais un véritable cabotin, quelqu'un qui adorait les éclats, qui adorait les scandales, les choses comme ça, ça c'est vraiment resté complètement dans le personnage de Houston, et ça vient de son père, ça. Alors, c'est arrivé à Houston comme à tous les acteurs américains, à Walter Houston comme à tous les acteurs américains, d'avoir joué dans des pièces qui se cassent la figure. Et Houston raconte comment son père, justement, en lisant une presse très mauvaise sur l'une de ses pièces, a été pris d'une crise de fou rire et riait en déchirant les quotidiens et en les jetant, en les éparpillant aux quatre vents. Et ça a énormément frappé.
Est-ce que le fait que Walter Houston soit d'origine irlandaise est une chose importante, je crois, oui?
C'est une chose capitale parce que les Irlandais sont caractériellement, sont des hableurs, des parleurs. Vous savez qu'en Irlande, il y a la pierre de Blarnstone qui est censée, quand on l'embrasse, vous donner le don d'éloquence. Et à ce moment-là, vous pouvez parler à l'infini et sans jamais vous fatiguer. Je l'ai embrassé d'ailleurs, cette pièce, cette pierre en passant. Mais alors bon, Houston, bien entendu, aussi, puisqu'il a habité l'Irlande très longtemps.
Je dirais que c'est un cinéaste universel qui était américain, mais il a vécu en Irlande presque aussi autant de temps que qu'il a vécu aux États-Unis.
Juan Luis Buñuel.
Et a, depuis beaucoup d'années, il vit au Mexique, maintenant sur une île près de Puerto Vallarta, où il a des problèmes aussi maintenant parce que il a sauvé une jeune fille qui devait être violée, et puis ça c'est récent. Et puis tout le village, et un village d'Indiens contre lui, il a dû débarquer, je sais pas, il s'est passé des tas de choses assez étranges, où il est tout à fait dans le droit, il aidait quelqu'un. Mais je crois qu'il a eu tout un village contre lui, ça c'était l'été dernier.
Let's give him the gun, so. He actually did shoot Thursby and Jacoby, didn't he? Anyways, made to order for the part. Look at him. Let's give him to them.
By God, so you are a character, that you are. There's never any telling what you'll say or do next, except that it's bound to be something astonishing.
Le système américain concernant la mise en scène était à l'époque surtout, mais l'est toujours maintenant, était quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire que le metteur en scène était un technicien comme les autres. Le producteur avait tous les pouvoirs, déléguait à l'assistana ou à la mise en scène des opérateurs, des écrivains parfois, le plus rarement d'ailleurs des écrivains, mais carrément c'était le producteur qui décidait tout dans le Hollywood de cette époque-là. C'est encore ça aujourd'hui, d'une autre manière. Mais disons qu'en tout cas, lui n'était pas du tout fait pour ça. Lui, il s'était voué à l'écriture. Il était un écrivain et il était un raconteur. À cette époque-là, puisqu'il avait déjà publié, avant d'aller en Amérique, d'aller à Hollywood, avant d'être engagé à Hollywood, il avait déjà publié des quantités de nouvelles. Et il avait même écrit et joué deux pièces de théâtre, l'une par des marionnettes, l'autre avec des acteurs. Donc c'était un écrivain, c'était quelqu'un qui écrivait, c'est un homme de plume. Et il a été engagé, comme des gens comme Hemingway, Fitzgerald et d'autres, pour travailler à des scénarios, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il travaillait sur des scénarios avec de très grands metteurs en scène, il a été pris en main à ce moment-là, et pris comme assistant par William Wyler, qui lui a au fond appris à écrire un scénario, à bâtir, à construire une histoire, et qu'il admirait beaucoup.
Et qui était un des amis de son père.
Exactement. Et qui était d'ailleurs un très bon modèle pour lui, parce qu'en plus, c'était, bon, il a été engagé par la Warner Bros. Et William Wyler était le plus grand metteur en scène de la Warner Bros. Il y en avait de très grands à cette époque-là. Mais enfin, Wyler était celui qui avait le plus de... Bon, il avait eu des Oscars, il avait une réputation énorme. C'était un Européen, puisque vous savez que Wyler est un Alsacien. Donc il avait déjà... Il lui a donné le goût de l'Europe... Et le goût des voyages aussi, et le goût du journalisme, et le goût d'un cinéma proche du témoignage, au fond. Ce qui fait qu'il a été, si vous voulez, un des poulains écrivains de la Warner Bros. Avant qu'un producteur ami, Howard Koch, lui ait confié des mises en scène. Il a commencé à se faire la main sur des films comme High Sierra et des choses comme ça, dans lequel, et puis il a d'ailleurs écrit des scénarios pour un autre metteur en scène qui est encore en activité aujourd'hui, qui est un Allemand, William Dieterle, acteur également, et dont il a écrit, pour lequel il a écrit des scénarios merveilleux, notamment celui de Charlotte et Maximilien au Mexique. Un superbe scénario, superbe histoire, très beau film, qui est déjà complètement houstonien à mon avis.
The park's down there, ain't it?
Yeah, the park. Say, Earl, you feeling all right?
I will be, just as soon as I make sure that grass is still green and trees are still growing.
Houston est, pour moi, j'espère pour d'autres aussi, est quelqu'un qui a un univers. Ces films, on ne peut pas dire que ces films se succèdent les uns aux autres comme des matériaux qu'on lui a confié, on lui a dit, vous faites ce film, voilà, vous avez un livre qui est prêt, vous avez un scénario qui est écrit, mettez-le en scène, pas du tout. Il a peut-être commencé comme ça, à ses débuts, mais quand il était un apprenti scénariste, mais très vite, il a révélé une personnalité, il a révélé un goût profond pour certaines aventures un peu exotiques, dans lesquelles des personnages plus grands que nature s'affrontaient, un univers, une morale, la morale houstonienne qui consiste à donner, si vous voulez, au crime une certaine dignité. Il disait que le... Je crois qu'il a écrit à peu près, ou prononcé une phrase équivalente à ceci, « Le crime est une forme gauchie de l'effort humain. »
Une seule fois, quelqu'un tenta vraiment de mettre en question l'autorité du juge et de son tribunal. Ça a eu lieu le jour où Bad Bob vint en ville. Pas l'affreux Bad Bob du Nouveau-Mexique. Non, le véritable Bad Bob. Le salaud. L'albinos.
Tim Allons, c'est en ville. Tiens. Bad Bob est trop vite. Attends, pas, viens, mets-toi. Bad Bob est en ville. Vite, cache-toi.
D'abord, c'est un narrateur, si vous voulez, sur le plan technique. C'est quelqu'un qui a mieux que n'importe qui su raconter une histoire. Il y a une manière de poser des personnages. Poser un récit est en général un récit assez arachnéen, mais dans lequel on retrouve très bien son chemin. Il y a une manière de poser une histoire qui est typique de lui et qui fait de lui un grand maître narrateur. Je crois que c'est un conteur lui-même adorait l'idée du conteur arabe qui est sur les places de village et qui est au milieu des serpents à sonnette, etc. Raconte une histoire et fascine son auditoire.
Tell me more about Rita Hayworth. You really know her very well.
Do I know Rita? Do I know her? I'll give you a letter of introduction. She'll fall an immediate victim to your charms.
You really think so?
Oh, but certainly. A man like you, suave, intelligent, darkly handsome. You have everything, Ahmed, except money. And if you listen to me, a boat will be placed at our disposal, a very slow boat, so that Fatka's check will have plenty of time to clear.
And you will trust me for your share?
Quand on dit le héros, il faut le dire avec ironie, parce que lui, au fond, ce sont des anti-héros, ces personnages. Il n'y a pas de personnages glorieux, entre guillemets, purs. Tous ces personnages sont complexes.
Des images d'épinal.
Il n'y a pas de manichéisme chez Houston, si vous voulez. Tous ces personnages sont impurs, imparfaits, et pourtant visent une perfection, en tout cas un achèvement dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut achever. Il y a une tâche, si vous voulez, à accomplir dans la vie. Il y a une aventure à mener jusqu'à son terme. Et ça, tous les personnages de Houston le font.
Je pense à un film, par exemple, comme Beat the Devil, traduit en français par Plus fort que le diable, qui est un film qui n'a ni queue ni tête, qui commence vraiment, on comprend rien du tout.
Il faut dire que c'est une plaisanterie. C'est un film qui a été pratiquement improvisé par Huston en Italie, alors qu'il, bon, il cherchait un sujet, il n'en avait pas, il avait plutôt les acteurs sans avoir le sujet, et il avait Truman Capote qui était à côté de lui, qui était un de ses amis aussi. Et ils ont inventé, comme ça, sur place, pratiquement un film qui est en effet un film picaresque, comme disent les Espagnols. C'est-à-dire une aventure à étages, à paliers divers. On ne sait pas où on va. Et ce qui est merveilleux, c'est que justement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aboutir. Et ça, c'est une chose que Huston aime beaucoup aussi. Il y a une dérision de l'aventure. Il y a une espèce de folie, ça ne mène nulle part peut-être, mais c'est pendant qu'on la mène, cette aventure, qu'on s'amuse, et ça vaut le coup de le faire pour l'avoir fait finalement.
Mais à la fin quand même, si on prend l'exemple de ce film, on s'aperçoit que bon, d'abord d'une part le film est très très bien construit, et que finalement il y a quand même un gagnant qui n'est pas celui qu'on attendait.
Oui, et non seulement ça, mais il y a également des personnages qui sont très proches au fond aussi du Faucon Maltais, parfois joués par d'autres acteurs, mais bon, quand on a Robert Morlaix, c'est comme si on avait Sidney Greenstreet aussi, parce que c'est une corpulence, c'est un personnage plus grand que nature, et puis à côté, il y a Peter Lorre, dérisoire, et un peu ridicule, et un peu larmoyant, et puis il y a le héros de granit, le personnage un peu flétri, si vous voulez, mais néanmoins qui incarne l'aventure et qui est joué comme presque toujours par Humphrey Bogart, qui était son ami. Et vous savez qu'Humphrey Bogart était son ami avant même que Huston fasse du cinéma, et que c'est en écrivant pour lui que finalement il a fini par le choisir comme son premier acteur et pratiquement par monter son premier film, c'est-à-dire Le Faucon Maltais. Au moment où Humphrey Bogart n'était qu'un petit acteur secondaire qui jouait des seconds couteaux dans les films de la Warner, et où la grande vedette était George Raft. La grande vedette de la Warner, à l'époque où Huston a commencé sa carrière, c'était George Raft. Or, George Raft n'a pas voulu du scénario du Faucon Maltais. Et alors, il a arraché à ses producteurs l'idée de faire jouer le héros par Humphrey Bogart, ce petit acteur de second plan que personne ne prenait au sérieux, mais qui était déjà un ami de Huston. Et bon, finalement, ça a collé merveilleusement. Et d'ailleurs, Bogart est devenu une grande star grâce au Faucon Maltais.
Miles hadn't many brains, but he'd had too many years' experience as a detective to be caught like that by a man he was shadowing up a blind alley with his gun in his hip and his overcoat buttoned. But he'd have gone up there with you, Angel. He was just dumb enough for that. He'd have looked you up and down and licked his lips and gone, grinning from ear to ear. And then you could have stood as close to him as you liked in the dark and put a hole through him with a gun you got from Thursby that evening.
Don't, Sam, don't say that.
Stop it. The police will be here any minute. Now talk.
Oh, why do you accuse
me? This isn't the time for that schoolgirl act. We're both of us sitting under the gallows. You thought Thursby would tackle Miles and one or the other of them would go down. If Thursby was killed, you were rid of him. If it was Miles, you see that Thursby was caught and set up for it. Isn't that right?
Something like that.
And when you found that Thursby wasn't going to tackle him, you borrowed his gun and did it yourself, right? And when you heard Thursby was shot, you knew Gutman was in town. And you knew you needed another protector, somebody to fill Thursby's boots. So you came back to me.
Yes.
Well.
Et cette fin du Faucon Maltais?
Oui, alors ça, bah, elle est parfois interprétée un peu abusivement. Je pense que Huston est un personnage très macho, c'est vrai. Et bon, il a eu beaucoup de femmes. Il a eu beaucoup de femmes dont il a été l'amant aussi, mais dont il a été l'ami fidèle aussi au travers de la vie. Et il a choisi des femmes, des images de femmes comme Ava Gardner, qui elle aussi est une espèce d'aventurière du cinéma et qui a incarné pas mal de choses aussi à sa manière. Bon, et Ava Gardner est restée pour lui la femme idéale jusqu'à la fin de sa carrière, puisque Ava Gardner a encore joué dans le juge Roy Bean. Par exemple, elle jouait la femme idéale, la femme inaccessible qui est une grande actrice, qui vient dans l'Ouest comme un mirage, comme Sarah Bernhardt a traversé le Far West et la Californie.
Ma très chère Lily, je prends la plume pour vous écrire et ce sera la dernière fois. Je tiens à vous dire que, bien que je ne vous ai jamais vue et que je n'ai jamais entendu le son de votre voix, Je vous ai toujours gardé avec moi, dans mon cœur. C'est votre présence sur cette terre qui m'a donné la force et la dignité qui conviennent à un gentleman, et qui m'a aidé à chasser le froid qui m'aurait envahi durant ma longue nuit solitaire. Je tiens à vous dire pour finir que ça a été un honneur de vous adorer. Dieu veuille qu'un jour, dans cette vie ou dans l'autre, je puisse tout de même me trouver dans votre lumière et vous faire ma déclaration. Pour jamais et à jamais, votre ardent admirateur et votre champion, Juge Roy Bean.
Dans Le Faucon Maltais, ce personnage de héros fatigué est finalement extrêmement moral.
Oui, non, mais c'est un personnage, on a pu dire, vous savez, il y a eu beaucoup de gens écrits sur Houston. Et on l'a beaucoup relié, d'une part, à la génération perdue des Hemingway Fitzgerald, qu'il a connu très bien, et qui, au point de vue historique, si vous voulez, sont à peu près de la même époque. Mais on a dit que c'était un héros, c'était un metteur en scène qui représentait un peu la conscience de l'Amérique. Et la conscience de l'Amérique, ben, elle n'est pas d'une clarté totale. Je veux dire, l'Amérique a traversé des crises très graves, des crises de conscience, et Houston aussi. Et Houston, par exemple, a traversé le McCarthyisme, c'est d'une manière complètement exemplaire. Il n'a pas vécu le Watergate, mais il a vécu le McCarthyisme de manière parfaite, puisqu'il a quand même été un de ceux qui ont, sous le McCarthyisme, frété un avion et rassemblé des fonds pour l'Espagne combattante. Et qu'ils ont été, à ce moment-là, tous ces gens-là, dont un Humphrey Bogart et d'autres encore, ont été considérés comme des communistes, ce qui n'était pas du tout.
Hello, Sergeant Polehouse there? Yeah, put him on. This is Sam Spade. Hello, Tom. Now listen, I've got something for you. Here it is. Jacoby and Thursby were killed by a kid named Wilmer Cook. Yeah, he's about 20 years old, 5'6", wearing a gray overcoat. He's working for a man named Casper Gutman. You can't miss Gutman. He must weigh 300 pounds. That fellow Cairo's in with him, too. We just left here for the Alexandria Hotel, but you'll have to move fast. They're blowing town. Now watch yourself when you go up against the kid. Yes, that's right, Barry. Good luck, Tom.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un personnage houstonien?
C'est un personnage qui a une certaine morale, je crois, et qui a un certain mode de vie, qui a un style de vie qui est un peu à la fois aventureux et flamboyant.
Moulin Rouge. Seul film tourné en France par John Huston en 1953, avec Suzanne Flon.
Je l'avais déjà rencontré quelques années auparavant. Il devait tourner Covadis. Et je pense que c'est Margot Capelliou, qui est une casting directeur quelconque, qui avait fait venir plein d'actrices françaises. Et je crois qu'il était au Ritz. Nous étions nombreuses là à attendre. Et j'étais allée faire un essai à Londres. Et il n'a pas fait le film, mais il avait eu la grande courtoisie de m'envoyer un mot en me disant que mon essai était très bon, que malheureusement il ne faisait pas le film, et que sinon j'aurais été considérée sûrement avec intérêt pour le rôle. J'avais trouvé ça extrêmement élégant, ça n'arrive pas souvent. Et puis quand il est revenu à Paris pour tourner Moulin Rouge, eh bien, il s'est souvenu de moi.
Vous savez pas pourquoi il a voulu tourner Moulin Rouge ?
Oh, ben, il adore la peinture, John Huston. Ça l'intéresse au moins autant que le cinéma. Alors, sûrement que la vie de José Ferrer, j'allais dire, de Toulouse-Lautrec l'intéressait, voilà. Je me souviens que dans Moulin Rouge, je jouais un mannequin, vous savez. Je suis assez éloignée d'un mannequin à tout point de vue. Et à ce moment-là, je ne sais même pas si j'avais déjà vu des collections de couture. En tout cas, je devais arriver avec une très belle robe dans le salon et aller vers des clientes. Et ça me tracassait, ça. Et Catherine Cat m'a dit, il n'y a qu'une chose. Quand tu entres, tu te dis, je suis la plus belle. Et j'avais beau me dire ça, j'avais une petite voix qui me disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je suis arrivée là maladroite, et ça avait fait rire John, il m'imitait. Après, il me disait, mais pourquoi est-ce que vous êtes si maladroite? Je savais que répondre, mais il m'a beaucoup imité, il a beaucoup ri. sans aucune pitié.
The morning wind is cold, but not so cold as the waters of the Seine.
You are mistaken, monsieur. I'm not a candidate for the river.
We are all candidates when driven by the mania of love.
Must it be love that brought me to the Pont Alexandre?
What else? The latest creations are not worn by those in dire poverty.
Believe me, monsieur. I didn't come here to throw myself in the river. Only this. So now we can both go home.
My carriage is at your disposal.
Good morning, monsieur.
Les personnages de Houston, dans la mesure où justement ils rient devant l'échec, sont des gens qui défient l'échec, qui se mettent qui mettent en demeure le destin de les accabler, parce qu'eux savent qu'ils surmonteront la défaite, toujours.
Mais est-ce que c'est ça, ce côté flamboyant ?
Ce côté flamboyant, c'est le style. Il y a toujours dans ces personnages un style de provocateur et un humour également. Une manière, si vous voulez, de jeter à la face du monde, à la face de l'univers, son défi. C'est ça, au fond.
Alors, on prend, par exemple, certains personnages de certains films. Dans quel argot ? Ce personnage joué par un Humphrey Bogart.
C'est... Oui, alors là, c'est, si vous voulez, c'est un personnage, justement, aussi, c'est un personnage battu, justement, par la vie. Un personnage qui revient de la guerre, qui a été blessé, ce sont des personnages meurtris. Il y en a quelques-uns dans la carrière d'Houston, mais ce sont pas du tout les personnages les plus caractéristiques, à mon avis. Même celui-là, puisque les gens des cahiers du cinéma à l'époque s'appuyaient sur des films comme ça pour dire que c'était toujours l'échec dans sa vie.
Mais ça finit pas par un échec.
Puisqu'il finit par tuer le gangster qu'il kidnappe en haute mer, mais justement, ça, c'est très houstonien, dans un film qui n'est pas spécialement caractéristique de son œuvre, qui n'est d'ailleurs pas un de ses grands films non plus, mais c'est un très bon film quand même. Mais c'est tiré d'une pièce de théâtre en plus.
Oui, c'est filmé de façon très théâtrale.
Sauf le dernier tiers, justement, qui se passe en haute mer, qui est une véritable aventure. C'est vraiment une pièce de théâtre. Mais ce qu'il y a de houstonien, c'est dans le fait de chercher des personnages qui peuvent être justement des soldats de fortune ou des aventuriers, des vétérans de la guerre qui sont revenus blessés, qui sont revenus traumatisés, comme ceux qu'il a dans la vie interviewés au retour de la guerre, qui sont revenus complètement marqués par la guerre et cassés, littéralement cassés dans leur physique et dans leur tête par la guerre. Et ces personnages-là, soit dans leur œuvre, soit dans la vie, il leur a redonné la force de vivre, la force de survivre et la force de faire face à la vie et de faire face à cette aventure incessante qu'est la vie pour Houston. Je crois que c'est ça, un personnage houstonien. C'est un personnage qui n'est jamais battu et qui, chaque fois que la vie lui donne des coups, les rend, finalement. Bon, alors, les personnages de Houston sont des gens qui partent à la chasse au trésor et qui reviennent les mains vides, possible, mais ça les fait rire, finalement. Ça les fait rire, et puis ils recommencent. Et on sent très bien que le personnage, même le vieil aventurier joué par Walter Houston dans Le Trésor de la Sierra Madre, va continuer à chercher le trésor de la Sierra Madre, même si l'or s'est éparpillé à tous les vents. Et c'est, tous les personnages de Houston sont comme ça.
Trésor de Sierra Madre, un petit peu d'informations sur ça, a été écrit par un monsieur qui s'appelle Beethoven, qui était un Allemand, qui a écrit, il est venu au Mexique dans les années 20 et a vécu dans la jungle avec les Indiens et tout ça. Et alors, il a fait le Trésor de Sierra Madre où John Huston a fait un scénario de ça et a tourné avec Humphrey Bogart et son père, le père Houston, Walter Houston. Et ils ont tourné ça au Mexique, où Traven était sur le tournage, mais personne ne savait que c'était lui. Il était sur le tournage pour comme assesseur technique, pour donner des idées, pour je crois pas qu'il en a donné beaucoup non plus, mais parce que Houston savait ce qu'il voulait faire. Et Houston savait très bien que c'était Traven, mais il l'a jamais dénoncé, pas dénoncé, ou, il a jamais dit qui c'était, parce que B. Traven voulait garder sa son secret de lui-même, il voulait pas être reconnu par personne.
Et par rapport à ce roman, vous pensez que le film est meilleur que le roman ?
Oui, alors je viens de lire maintenant le roman de Le Trésor de la Sierra Madre, et le roman est un peu simple. Que je dis pas ça des autres romans de Traven, que je trouve formidable, mais celui-là, oui. Et je trouve que là, Houston a fait... Normalement, on dit qu'un film est pire que le roman. Là, le roman est mieux que le film. Le film est mieux que le roman, pardon.
Qu'est-ce qui fait que John Huston a choisi de porter à l'écran ce roman, selon vous ?
D'abord, je pense qu'il aime tourner dans des différents pays. Il a toujours aimé le Mexique. Et il a dû être inspiré par le roman pour faire une histoire d'aventure. Une histoire où il y a tout dedans, la recherche pour l'or, greed, comme on dit, l'avarice. Ils veulent de l'or, et puis l'amitié entre les hommes et la trahison entre les hommes.
Je crois que son art, c'est justement d'écrire et de concevoir des scènes dans lesquelles il ne se passe probablement rien. Et ce sont les scènes qui sont les plus importantes dans ces films, parce que elles ne sont faites de rien. Moi, je pense, par exemple, je prends Le Trésor de la Sierra Madre, qui est peut-être le film le plus connu de Huston. Moi, je pense ce visage de Bogart, avec ses yeux qui brillent au-dessus du feu qui est en train de mourir, et il est complètement diabolique parce qu'il est en train de penser à son argent et à où son or est enterré, où cet or est enterré, où il va le voler, et où il est un personnage complètement satanique. Eh bien, c'est un personnage complètement inhabituel pour Humphrey Bogart, qui est un personnage que tout le monde adore et qu'on aime. Eh bien, ça, c'est un moment extraordinaire. En même temps, c'est un moment où il n'y a absolument aucune réplique. Je pense à la danse de Walter Huston, justement, quand il danse sur le terrain dont il sait qu'il contient de l'or et dont les autres ne se sont pas encore aperçus. Ils lui disent, comment ? Vous dites qu'il n'y a rien, là, c'est le désert ? Eh bien, vous ne savez pas à quel point vous êtes idiot. Il se met à danser, à faire une petite danse ridicule, en piétinant le sol. C'est complètement indescriptible aussi, et c'est formidable, parce que c'est la vie même.
En même temps, ces personnages sont un peu caricaturaux, tous.
Ce personnage-là, en particulier, est complètement caricatural, mais il recèle tellement d'amour, et en même temps, c'est le rôle qu'il a donné à son père, et c'est l'Oscar, le seul Oscar que son père aura jamais eu, et que son fils lui a donné. Et parce qu'il a mis tellement d'amour, il aimait tellement son père, qu'il lui a donné le plus beau rôle, et finalement... On se souvient de lui autant, en tout cas, que de Bogart, je trouve.
Yeah. I'm going to finish this right now.
You mean you're going to murder me?
No, brother, not murder. No, your mistake. I'm doing this to save my life, that you'd be taken from me the minute I wasn't looking at you. Up, march.
Where?
To your funeral. Come on, keep going.
Chez Huston aussi, il y a toujours un thème qui revient, parce que quand il choisit des romans ou qu'il choisit des pièces de théâtre, qu'il les adapte, en les choisissant, il les fait siens. Et dans l'adaptation, il imprime sa marque encore davantage. Donc il choisit des personnages qui vont toujours violer un secret. Bon, par exemple, il y a les insurgés. On va fouiller, traverser pour aller porter la révolution. On va traverser un cimetière. On creuse sous le cimetière, on creuse sous les cadavres, sous les squelettes, etc., dans une puanteur horrible. C'est-à-dire, on se salit complètement, mais physiquement, complètement et moralement. On traverse une épreuve horrible pour émerger à la lumière et aller porter des coups de la révolution chez un dictateur. Bon, il y a ça. Vous avez Moby Dick, c'est pareil. Moby Dick, c'est un personnage, le personnage de Moby Dick, c'est-à-dire la baleine blanche, qui va revenir plusieurs fois dans la carrière de Huston. On a revu à la télévision récemment ce très beau western,
Le
Vent de la Plaine, et c'est à peu près le même thème que dans Moby Dick, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui revient perpétuellement et qui harcèle les humains de son secret. Moby Dick, c'est à la fois tous les secrets de la vie et de la mort, finalement. Et dans Le Vent de la Plaine, c'est un personnage qui frappe une famille et qui la harcèle d'une ambiguïté fondamentale sur la famille. Non, la fille est peut-être une indienne, peut-être pas. Enfin, toujours est-il qu'il y a une malédiction placée sur cette famille au travers d'un personnage fantomatique qui revient périodiquement avec le vent, comme la baleine blanche revient dans la tempête harceler le capitaine Ahab. Et sont des personnages qui, si vous voulez, défient ce secret et le viol. En même temps, Moby Dick, c'est un personnage qui incarne, je parle de la baleine blanche, le personnage de Moby Dick est un personnage qui incarne l'injustice, si vous voulez, de Dieu. Et donc il y a un blasphème dans Moby Dick. On arrache le masque de cette imposture. Et ça aussi, c'est un thème très, très houstonien. Il y a des impostures qu'il faut démasquer, des masques qu'on arrache. Vous avez, bon, c'est sans fin. Tous les films de Houston se renvoient les uns aux autres. Vous avez la liste d'Adrian Messenger, où il y a également un personnage qui avance masqué, dont on ne connaît pas le visage, qui a 36 visages, qui est d'ailleurs joué par 36 acteurs, des plus connus d'ailleurs, ça va de Kirk Douglas.
C'est important ça?
C'est très important parce que vous avez dans La Lettre du Kremlin, pareil, vous avez des personnages qui avancent masqués et dont le héros arrache le masque. Et le personnage de Houston est un personnage qui arrache les masques, amène la vérité, qui est parfois une vérité très profonde, qui va très profond au cœur des hommes, dans l'individu, qui parfois, c'est des tabous. C'est pas pour rien que Houston a fait Freud, parce que Freud est finalement le personnage le plus houstonien de tous. Bon, c'est revenu à travers de Sartre, si vous voulez. Mais Freud, c'est aussi un personnage qui plonge au cœur de l'inconscient et qui arrache un certain nombre d'impostures, un certain nombre de...
Il défie une soumission et une conventionnalité?
Voilà, c'est un révolté, au fond. Houston, c'est un révolté. Je crois que dans tous ses films, quand on voit la masse de ses films, et il y a très peu de ses films, finalement, qui, d'une part, ne sont pas réussis. Il y en a quelques-uns, bon, qu'il a raté, très peu. Mais en tout cas, il y a très peu de films, surtout, qui ne se rattachent pas à ce que nous disons. D'une manière ou d'une autre, on revient toujours à ces thèmes-là.
Houston, ce qui me frappe toujours chez Houston, c'est son corps, c'est sa manière d'être physiquement. Donc Polanski, ça l'a montré, l'a utilisé. Je crois qu'on aurait dû l'utiliser encore bien plus.
Jean-Marc Terrasse.
Ces espèces de puissance physique qui dégage. Et ça, il en joue complètement avec Sean Connery et Michael Caine. Et il en joue dans les deux directions. De la direction de la folie pure, c'est-à-dire que de quelque chose qui s'empare de quelqu'un qui est donc Sean Connery et qui devient habité par ce désir qui s'exprime là par le pouvoir, par le goût du pouvoir, et puis la distance que l'autre garde, malgré tout, par rapport à ça. C'est-à-dire que ça pourrait être le même personnage, un personnage qui est à la fois totalement habité par sa folie, mais qui est en même temps totalement témoin de sa propre folie. Donc ça, il le fait, et il le fait, il y a une scène que je trouve très symbolique, c'est qu'à un moment, nos deux héros, donc, ils vont conquérir un royaume, en plus ça s'appelle l'homme qui voulut être roi. En fait, on pourrait imaginer que les deux veulent être roi, hein, ce singulier est très clair. Donc ils arrivent dans ce royaume dont ils veulent être le roi, ils traversent une chaîne de montagnes magnifique, ils sont un peu comme le prince dans La Belle au bois dormant, c'est-à-dire que tout s'ouvre devant eux, hein. Il n'y a pas réellement d'effort à faire. Au moment où le prince arrive dans le château de la Belle, le château est ouvert. Alors que les autres s'y sont cassés les dents, sont morts sur les barrières d'épines, pour eux tout s'ouvre. Donc ils arrivent au bon moment. Le royaume n'est pas à conquérir, il est conquis d'avance. Et ils arrivent dans cette vallée qui est devant eux, ce royaume, ce monde absolument invraisemblable. Et là, il y a une tribu. La tribu qui en fait domine cet endroit à ce moment et ce lieu à ce moment-là, et c'est les hommes de cette tribu sont en train de jouer à un jeu qui est une espèce de polo, le raffinement anglais par essence, par excellence. On peut pas imaginer plus raffiné et plus aristocratique que le polo, et ils le jouent avec un crâne au polo. Et tout d'un coup, cette cette histoire dans l'histoire donne complètement la dimension du film. Et moi, j'aime cette force physique qui se dégage de ce film, cette puissance qui est une histoire d'aventure, une grande histoire d'aventure. Il a réussi cette magie de l'enfance et de l'adolescence, d'une vraie belle histoire d'aventure.
Presque raconter un film houstonien idéal, ça raconterait l'histoire d'un homme qui brave une civilisation ou qui brave une situation donnée, disons une révolution, et qui arrive à lancer un défi, à s'en tirer, et surtout à entraîner autour de lui une collectivité, des compagnons d'aventure. Vous savez que l'un des livres que Houston a préféré, et dont il parle assez souvent, c'est Les Pléiades de Gobineau. Parce que c'est l'histoire de gens qui, au travers de différentes nationalités, appartiennent à la même race, sont les fils de rois. C'est un peu, l'homme qui voulait être roi, parce que c'était les personnages de l'homme qui voulait être roi sont justement des pléiades de Gobineau. Sont des fils de rois dans leur tête. Ils savent qu'ils sont fils de rois, ils le sont pas, mais ils mériteraient d'être des fils de rois. Et finalement, leur personnage est royal. Et seigneurial, si vous voulez. Et dans l'aventure, ils se retrouvent comme des frères dans une fraternité, une collectivité. Et donc, les films de Houston sont toujours des films de collectivité, une aventure collective. Soit un hold-up, soit une révolution, soit une exploration, ou une traversée du désert, ou la recherche de chevaux sauvages, ou des choses comme ça. Mais c'est toujours ça.
Il a utilisé des acteurs américains, mais aussi des gens comme Peter Lorre, qui était allemand. Sidney Greenstreet était anglais ou américain?
Je crois qu'il était anglais.
Et puis l'avant-dernier film qu'il a fait avec En dessous du volcan, c'est des acteurs anglais qu'il a pris. Bissette et puis Fenney, c'est des anglais. Alors moi, je trouve que c'est un homme universel et pas américain.
Et il travaille plutôt avec des grandes vedettes quand même.
Des fois, c'est pas vrai. Parce qu'il a fait Fat City, par exemple, avec Stacy Keach, qui n'était pas un grand vedette, et qui, pour moi, est peut-être son meilleur film, ou un de ses meilleurs films, qui n'a eu aucun succès aux États-Unis et aucun succès en France, en Europe. Mais voilà, il a fait un de ses meilleurs films avec quelqu'un qui n'était pas une grande vedette. Des fois, il fait aussi des films avec des grandes vedettes, oui.
Oui, il en a fait quand même pas mal, avec des grandes vedettes, Ava Gardner, Humphrey Bogart. Ce sont ses amis?
Je pense que c'était des amis, oui. Des amis en boisson. Ava Gardner, surtout, qui aimait bien boire aussi.
Fat City, c'est en 1972,
je crois. Je ne me rappelle pas. J'aimerais bien le revoir. Je l'ai vu une fois, c'était comme un choc. Et je voulais le revoir de nouveau. Il avait déjà quitté les écrans. L'histoire d'un boxeur raté et tout ce milieu. Il y avait toute une façon, d'abord une façon de voir l'Amérique qui n'était pas du tout hollywoodienne. On voyait un autre Amérique, un Amérique pas du tout romancée. Il n'y avait pas une seconde de poésie dans le sens où il voulait montrer que ça soit beau, que ça soit... C'était un film très dur, très très dur pour tout le monde, pour lui-même et surtout pour les États-Unis. C'était un vrai... Les bas-fonds, les vrais bas-fonds des États-Unis que très peu de personnes ne montrent. C'est l'histoire d'un boxeur raté.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Il est raté tout, rien. C'est ça ce qui est formidable du film, il se passe pas grand-chose. C'est un homme qui veut revenir boxer et puis ça marche pas. Et c'est tout, c'était une histoire très, très simple. Mais moi je comprends pas pourquoi il a pas marché ici. Peut-être parce qu'il n'y a pas de grand héros, peut-être parce qu'il n'y a pas d'éclair, parce que c'est pas flashy comme on dit. C'est surtout un ton dans le film qui est extraordinaire. Sans pitié, et avec plein de pitié aussi, parce qu'on sent les problèmes de ce monsieur. Ce qui se passe à un boxeur quand il est plus qu'on l'utilise et puis on le fait perdre des luttes. Et... très beau film.
Un nouveau film depuis quelques jours sur les écrans parisiens, Fat City de John Huston, un film qui traite des milieux de la boxe que John Huston connaît bien puisqu'il a été boxeur lui-même. Et puis l'auteur du livre de Fat City, Leonard Gardner, a été lui aussi boxeur, et c'est de ses expériences de boxeur dans des petites villes américaines qu'il a tiré ce roman qui fut un gros succès aux États-Unis. John Huston, le metteur en scène des Misfits, de La Nuit des Iguanes, d'African Queen, du Faucon Malte. Alors, John Huston, pourquoi Fat City?
Well, the name itself, Fat City is an old jazz musician's term.
C'est la ville grasse, c'est un vieux terme du jazz. C'est le succès et la grande vie pour le boxeur du film. C'est la terre promise ou la bière ou la flow.
It means that you're a success.
Les personnages dans ce film, John Huston, sont des perdants, en définitive des losers. Cela ne fournit pas une image très optimiste de la vie. Qu'avez-vous voulu démontrer avec l'adaptation de Fat City pour l'écran?
Well, I think it's a demonstration of that kind of courage that goes on in the face of
C'est la démonstration du courage face à la défaite. C'est une qualité dont l'animal humain a besoin pour survivre, même si c'est un courage sans espoir.
If he's going to survive, just courage when there's no reason to be brave. I mean, when it's a hopeless.
Quand il n'y a aucune raison d'être brave.
John Huston, quels sont aujourd'hui vos projets après Fat City, d'autres films ou des films qui sont déjà réalisés?
I've made two pictures now, end to end. I finished another film.
Eh bien, j'ai terminé deux films, coup sur coup. J'ai fait un autre film après Fat City, La vie et l'époque du juge de Roy Bean, avec Ava Gardner et Stacy Keach. Cela a été passionnant, mais maintenant, je dois rentrer dans mon antre pour lécher mes blessures.
End to end.
So you're going to take
the tail of one was in the mouth of the other. So, I think it's time for me to go back and lick my wounds.
C'est une drôle d'idée de creuser un trou dans ce foutu bled.
C'est ma tombe. Quand ce trou s'est détaché du chariot, j'ai compris que c'était un présage. C'est ici que je mourrai.
D'où est-ce que vous venez?
J'ai passé dans les montagnes la plus grande partie de ma vie. J'ai connu Jim Bridger, Kit Carson, Liberty Johnson. C'était un brave type à ses débuts. Il prenait la vie du bon côté. Il a mal tourné dans les Wintas.
Oui, ça peut arriver. Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Grizzly Adams. Descendant direct de John Quincy Adams, 6e président des États-Unis. Son sang coule dans mes veines. J'en ai eu marre de tout quand j'étais jeune et je me suis enfui dans les montagnes. Une bonne vie, une vie libre, mais on gèle le cul. À tel point que j'allais chez les ours l'hiver et que je couchais près d'eux dans leur caverne. On m'a surnommé Grizzly parce que j'ai cohabité avec les ours.
Qu'est-ce que vous faites à Vinegaroun?
J'ai eu froid toute ma vie. Maintenant, je m'en viens au sud mourir où il fait chaud.
Eh bien, ici, il fait chaud. J'interdis toute mort illégale. Les seules personnes qui meurent dans ma ville sont celles que je descends ou que je pends. Allez, fichez le camp.
Pas le droit de claquer ici ou là, on peut même plus cramer où ça vous plaît. C'est pas très beau ce que tient le monde, et je suis bien content que mes jours soient sur le point de finir. Voilà Zachary Taylor, l'aîné de mes grands-fils que j'ai appelé comme le 12e président des États-Unis. Je préfère sa compagnie à celle des hommes.
Eh bien, mettez vite là-haut et fichez le camp.
Sans doute que ce qui m'a toujours attiré chez Huston, c'est que c'est quand même un cinéaste, même s'il y a une réflexion qui est forte chez Huston, un cinéaste d'aventure. C'est-à-dire que c'est des films qui vous prennent quelque part et qui vous emmènent ailleurs.
Pierre Christin.
Et la bande dessinée, fondamentalement, je pense que c'est fait pour l'aventure. Et même si j'ai cherché des sujets assez signifiants, j'ai toujours pensé qu'il fallait que ça soit une écriture sèche, une écriture un petit peu aventureuse, sans fioritures. Et ça, c'est en ce sens où je me sens assez proche de l'esthétique de quelqu'un comme Huston. J'ai par exemple, dans un des albums que j'ai fait avec Bilal, qui s'appelle « Les phalanges de l'Andre Noir », et qui raconte, et ça pourrait, je crois, être un thème un peu Hustonien, des vieux de la vieille qui reprennent du service en politique, ils sont perclus, ils ont des rhumatismes, ils n'en peuvent plus.
ils font que des bêtises, en définitive, mais c'est une belle fin. C'est-à-dire qu'ils rempilent au nom d'un idéal. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent chez un cinéaste comme Huston. Ils échouent, mais ils sortent, même si pour la plupart d'ailleurs ils finissent morts, leur mort les sort grandis quand même de leur aventure humaine. Et c'est en ce sens où je crois me rattacher à un certain cinéma américain qui a très bien emblématisé Huston. Par rapport à des cinéastes très esthétisants, il y a un aspect un peu vite fait, bien fait, parfois même dans ses films moins réussis, un peu bâclé, mais toujours sympathique. Alors peut-être là aussi que ça a des rapports avec la bande dessinée. La bande dessinée, c'est pas du très très grand art. Ça a eu longtemps un côté art populaire que je revendiquais assez volontiers. Et des cinéastes peut-être un petit peu mineurs, même si là aussi je suis pas sûr que Huston soit tout à fait un cinéaste mineur, loin de là. Mais par rapport à des très grands qui ont renouvelé les formes du cinéma, je pense pas non plus que ça soit un type qui ait vraiment renouvelé les formes cinématographiques. Mais à l'intérieur de ça, c'est quand même un cinéaste important par ce qu'il a dit et par l'espèce d'exemple que beaucoup de ces personnages ont donné.
Vous saviez que l'arme était vile, n'est-ce pas? Ça se sentait rien qu'au poids.
Non, monsieur, je l'ignorais.
Il n'a pas eu le cran, mon vieux. C'est tout simple.
Vous avez bien fait. Vous auriez subi le même sort que lui. Il vaut mieux être un lâche en vie qu'un héros mort. Oh, excusez-moi.
Vous n'aviez pas peur, Franck, vos amis le savent.
Oh si, j'avais peur. Mais ce n'est pas ça qui m'a empêché de tirer. Après tout, je me moque pas mal que Johnny Rocco soit vivant ou mort. Je ne m'intéresse qu'à moi et au mien. Johnny Rocco veut revenir dans ce pays, qu'il revienne, qu'il en soit le président. Je ne me bats plus que pour mon propre compte.
Je ne suis pas de votre avis, Franck. Sauveur ne l'était pas non plus.
Il était fou. Moi, mourir pour débarrasser le monde d'un Johnny Rocco? Non, merci.
J'aimerais mieux être morte que de croire ce que vous dites.
Le langage de la bande dessinée, de l'école dite française qui a émergé, simplifions, dans les années 65-70, c'est un langage, pour moi et pour tous mes amis dessinateurs, sans exception, qui s'est fabriqué à partir du cinéma. Première remarque, et deuxième remarque, qui s'est fabriqué très largement, parce que c'était le cinéma dominant de l'époque, par le cinéma américain. Alors, il y en a qui peuvent être plus marqués par Wells, d'autres qui peuvent être plus marqués par Lang, d'autres qui peuvent être plus marqués par Huston, d'autres qui peuvent être plus marqués, que sais-je, par Luzet ou par Preminger. Je trouve que là, je n'ai cité que des noms que j'aimais. Mais, par exemple, je crois que notre manière d'amorcer des plans, de faire des travelling, de créer des rythmes cut, tout l'art du cut du film américain, de ce rythme très sec, très éloigné, par exemple, du cinéma français d'avant la Nouvelle Vague ou des choses comme ça, c'est ça qu'on retrouve dans la bande dessinée française, qui est quand même un mode narratif sec. C'est quelque chose qui essaye d'en dire le plus possible dans chaque image, sans aller vers les redondances, vers les explications. C'est quelque chose qui fait confiance à l'image. Et on a, je pense, tous été jeunes, dans les années, ça dépend un peu des générations, mais 60, qui était par exemple la grande période de production de Huston et de tous ces gens-là. Et c'est ce cinéma-là qu'on n'a pas arrêté de regarder et qui forcément s'est retrouvé dans nos manières de travailler. On ne cherche pas du tout du dessin à l'esbrouf. Ça peut être quelques lignes, ça peut être quelques couleurs. Il ne s'agit pas de surcharger l'image, mais il s'agit de faire vraiment bien vibrer cette image pour que le lecteur rentre dedans, littéralement. Mmh. Et un cinéaste comme Huston sait faire ça très bien. Ce n'est pas le seul dans le cinéma américain, mais il sait faire ça très bien. Un très très bon film, c'est quelque chose qui arrive à littéralement vaporiser le scénario. C'est-à-dire qu'on ne pense plus trop à ce que ça a voulu dire, à ce que c'était censé signifier, mais qu'il y a une espèce de mécanique qui fonctionne bien et où les personnages se déplace très bien à l'intérieur de l'image. Et Huston a réussi d'ailleurs aussi bien des films urbains que des films de grands espaces. C'est un type qui est très à l'aise dans les deux registres parce que, en général, effectivement, les personnages sont placés au bon endroit et qu'on les suit sans affaiblir. On y croit. C'est vraiment comme ça. C'est des héros modernes, et je crois que les héros de Houston sont souvent des héros très modernes, parce que justement ce ne sont pas des héros manichéens parfaits, comme il y en a eu trop dans un cinéma américain, que celui-là j'évoque pas, mais que j'aime pas trop, qui est un cinéma qui ne m'attire pas, qui peut être très beau d'ailleurs dans certains cas, enfin qui pour tout dire m'énerve un peu politiquement. Et chez Houston, c'est souvent des héros ébréchés, fêlés, pour qui ça fonctionne pas, ou pas vraiment bien, et c'est vrai que Bogart, dans African Queen, c'est pas exactement le prototype du héros avec qui tout réussit dans un premier temps. Mais c'est pas l'échec d'un individu, c'est l'échec de sa stratégie.
$2 Je suis plus $2 Je suis. La mise plus $23 Non, je passe.
Excusez-moi, monsieur, je pense que je m'adresse au prétendu juge Roy Bean. Je fais erreur.
Quoi que vous vendiez, ça ne m'intéresse pas. Nous n'aimons pas les commis voyageurs.
Je suis Frank Gasp. Je suis avoué et non commis voyageur.
Ouais, est-ce que tu suis? Je suis plus $10
Et je représente les intérêts de Monsieur Charles Phineas Brooker, décédé à Saint-Louis, Missouri, légalement possesseur de toute cette vaste propriété et de toutes les terres qui s'étendent dans un rayon de 150 miles.
Je suis, et j'ajoute, ce revolver plaqué argent qui vaut $10, mon idée.
Je suis le propriétaire actuel.
Je veux voir. Tu croyais que je bluffais? Regarde, quinte à la reine.
Alors, je pense que vous n'allez pas être content, juge, mais vous êtes refait, j'ai un flush. Regardez. De la bière, Hector.
Excusez-moi, monsieur, mais je serais...
Vous n'avez pas le sens commun ou pas d'éducation. Pour déranger quelqu'un qui doit décider s'il va suivre ou relancer. Il y a un arrêté dans cette ville contre ceux qui dérangent quelqu'un en train de décider s'il va suivre ou relancer. C'est un des plus graves délits. Passible de la peine de mort.
Un jour, il avait une crise de goutte. Et ça fait beaucoup souffrir, il marche avec une canne et... On arrête un taxi qui refuse d'aller dans la direction où on voulait aller, comme ça arrive souvent à Paris. Furieux, il engueule en anglais véhémentement et pour donner plus de poids, il donne un grand coup de canne au lieu de taper par terre et de se taper sur le pied. Alors il a poussé un hurlement et après le rire et c'était une... alterné les gémissements et le rire, c'était irrésistible.
Il y a un art de la conversation chez Houston. Houston est un causeur formidable. On a dit Mallarmé. Qu'il était le plus grand causeur. Moi, je ne l'ai pas connu, et bon, mais ceux qui l'ont connu assurent que Mallarmé était le plus grand causeur de son époque. C'est-à-dire quelqu'un qui parlait, et il n'y avait pas de fil conducteur, et on le suivait, on écoutait, et on participait à cette conversation. On ne savait pas où on allait non plus, c'était picaresque. Au fond, il avait une conversation picaresque. Houston, c'est pareil. Il y a toujours quelque chose d'exemplaire, et toujours une leçon, il y a quelque chose de didactique aussi chez lui, c'est qu'il tire une leçon de tout. Et une leçon qui n'est pas, si vous voulez, professorale du tout. Qui est plutôt une leçon d'humour, une leçon d'ironie, de dérision.
Qu'est-ce qui te fait sentir si bon? La campagne en est toute parfumée.
C'est de la sauge, chérie.
Oh oui, c'est ça. J'en avais jamais senti, sauf en flacon. C'est splendide par ici.
Écoute, Roselyne, chérie. Je crois qu'il serait bon que je te parle un petit peu des cow-boys.
Tu n'as pas l'air bien tranquille pour moi,
tu es un peu trop crédule. Les cow-boys sont les derniers vrais hommes que l'on puisse voir. Et ils sont pratiquement aussi peu sûrs que des papillons.
Il y a beaucoup de gens pareils. Il faut peut-être jamais se fier à ce qu'on peut vous dire. C'est peut-être même pas bien élevé.
J'entendais pas ce qu'il lui disait, mais je crois que c'est elle qui l'a quitté. Son mari. Elle est assez difficile à connaître. Ah oui, par instant, on la croirait naïve, bête comme un jeune chien. L'instant d'après, elle vous bouleverse, tu trouves pas?
Elle est formidable.
John Huston, c'est quelqu'un qui participe de la mythologie du cinéma américain.
Je crois que c'est une des grandes mythologies du cinéma, assurément. Et ça n'est pas, pour autant, un des plus grands créateurs du cinéma, quelqu'un qui a un père fondateur du cinéma, comme peut l'être Griffith ou comme peut l'être... Orson Welles, à sa manière, qui était un grand ami personnel de Houston, et d'ailleurs dans lequel Orson Welles s'est incarné, puisque le dernier film d'Orson Welles a pour vedette un personnage de metteur en scène interprété par Houston. Un film que peut-être on finira par voir, car il est terminé, et qui d'ailleurs est un film mythologique en soi, puisque il est dans ce film-là, joue à peu près une bonne douzaine de metteurs en scène comme acteur. Mais le héros d'Orson Welles, c'est Houston. Et ce sont deux personnages d'ailleurs dont les carrières sont un peu analogues. Ce sont deux exilés, ce sont deux maudits, si vous voulez, qui se sont retrouvés comme ça, éparpillés à la face du monde, qui parfois ont fait l'acteur ou le narrateur pour gagner de l'argent et pour régler leurs dettes. Orson Welles l'a fait toute sa vie, et Houston l'a fait une bonne partie de sa vie aussi, car Houston a fini par être acteur simplement et a tourné dans les films des autres pour gagner de l'argent qui lui permettait après de monter des films à lui.
Comment s'appelle ce film ?
Ah bah il a eu un Oscar pour Le Cardinal de Top Reminger.
Non, comment s'appelle le film de Welles ?
Ah, le film de Welles s'appelle De l'autre côté du vent, The Other Side of the Wind.
I suppose that type of Englishman is like a story I once heard. An English gardener in England was showing some Americans one of those wonderful English lawns, and of course they wanted to know how to make a lawn like that. And this English gardener said,
he said, all you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. I heard that story before you were born. Englishmen tell it when they're feeling down in the mouth.
Just don't understand the child type. You're not even listening. You never do. Someday I'll say goodbye and you won't hear that either. One day I shall really meet my type and run off with him, and you'll be simply amazed.
That's possible.
George Moore said, I learned it by heart years ago. He said that each great passion is the fruit of many fruitless years. George Moore was a very distinguished English writer, you know.
Except that he was Irish. Cheer up, sugar. If I make a million on this deal, I'll buy you an old English lawn, one we can roll up and take with us.
À part Noé dans la Bible, il a joué donc dans Le Juge Roy Bean, le denteur de l'ours. Et qu'est-ce qu'il a joué d'autre encore dans ses propres films comme rôle ?
Oh ben dans ses propres films, il a joué parfois des rôles tout à fait épisodiques, comme dans la Lettre du Kremlin, où il joue le rôle d'un amiral plus ou moins des services secrets. Enfin, il se donne pas forcément des rôles cruciaux, des rôles centraux. Dans La Promenade avec la Vie et la Mort aussi, il joue le rôle d'un noble, d'un aristocrate passé finalement à la clandestinité, et qui représente une espèce de résistance. Bon, alors il y a un peu une notion d'exemplarité, peut-être. Mais enfin, vous savez, il mène sa carrière exactement par plaisir. Hein. Et quand il se donne un rôle, c'est parfois parce que ça l'amuse de jouer ce rôle-là.
Enfin, il a quand même un sens, ce rôle. Que ce soit Noé ou que ce soit le denteur de l'ours, il ne dit pas n'importe quoi.
Noé, c'est un personnage formidable. Il voulait le donner à Chaplin et finalement il l'a joué lui-même. C'est quand même un personnage extraordinaire.
Le denteur de l'ours ne dit pas n'importe quoi.
Le denteur de l'ours, non, mais il incarne un peu le personnage qui vient de nulle part et qui est très proche de la nature et qui, justement, est un personnage picaresque qui arrive à n'importe quel moment, mais en même temps, c'est le bon moment. Et ça plaît beaucoup, je crois, Houston, ce genre de rôle.
John Huston, acteur dans Chinatown de Roman Polanski.
Il joue un personnage incestueux, totalement obsédé par sa fille, prêt à tout pour ne pas la perdre. Et ce personnage, je dirais que là aussi, ce qui m'amuse, bon, Polanski, ce qui m'a toujours frappé dans les films de Polanski, c'est qu'il met la caméra à hauteur de de visage pour lui, c'est-à-dire à hauteur de poitrine pour quelqu'un d'autre. Et il regarde toujours un peu d'en dessous. Et Houston, vu par la caméra de Polanski, il prend, c'est le Colosse de Rhodes. Hein, c'est le Colosse de Rhodes, mais pas uniquement, alors physiquement bien entendu, mais pas uniquement physiquement. C'est-à-dire que chacun de ses gestes devient, comment dire, chacun de ses gestes prend une dimension mythologique. Hein. C'est un personnage qui a été, il est sur l'Olympe. Et il est comme sur les dieux de l'Olympe, il est incestueux, son désir, rien ne peut contrarier ou empêcher son désir, c'est Zeus, quoi.
Au commencement, j'étais seul, l'univers était un chaos, et mon esprit planait au-dessus des ténèbres de l'abîme. Alors j'ordonnai que la lumière soit, et la lumière fut. Et il y eut des étoiles dans le ciel, si nombreuses qu'aucun homme jamais n'a pu les compter. L'une de ces étoiles, je te la destinai plus particulièrement, afin qu'elle éclairât tes longues marches sur la terre et réchauffât tes membres. Et ce fut le soleil. Pour rendre tes nuits moins obscures, je disposais dans le ciel cette planète qui, tel un miroir, se contente de réfléchir la lumière du soleil, la lune.
Vous appelez John Houston le gentleman des amateurs.
Oui, parce que ça, c'est une manière de renvoyer la balle aux gens de la Nouvelle Vague qui ont toujours considéré avec un peu de mépris. Vous savez, il y avait une rivalité entre Positif et les Cahiers du Cinéma, et Positif a toujours eu Houston comme poulain. Depuis ses premiers numéros, Houston était admiré par tous les gens de Positif et on lui a consacré des numéros spéciaux, etc. Et on ne supportait pas, il y a les gens de la catégorie de Bazin, car c'était le cas de Bazin entre autres, Bazin, Truffaut et Godard et compagnie, disaient, Romère aussi beaucoup, qui était à ce moment-là, pas metteur en scène, mais théoricien du cinéma. Et il considérait Houston comme un amateur. Et justement, comme un chantre de l'échec, puisque, anecdotiquement, ses films souvent se terminaient par un échec, mais moi j'ai prouvé que ça voulait rien dire du tout. Mais bon, alors en tout cas, on considérait que c'était un amateur et on disait, oh, il réussira jamais complètement un film, il y a toujours quelque chose qui va pas, quelque chose d'inachevé dans ses films. Parce que c'est vrai que Houston n'est pas du tout un perfectionniste, c'est pas du tout quelqu'un comme Orson Welles, qui va travailler pendant des années et des années sur un film avant de considérer peut-être par le terminer et le signer. Houston, au fond, ce qu'il aimait, comme toute aventure, c'était de la vivre. Donc ce qu'il aimait, c'était tourner. Et parfois, on l'a vu quitter certains de ses films avant de les avoir terminés. Il partait pour aller chasser l'éléphant en Afrique. Il a quitté, on sait très bien que La Charge Victorieuse, qui est un de ses chefs-d'œuvre aussi, qui est un film qui a été mutilé par la maître Goldwyn-Mayer, le montage a été mutilé parce que Houston n'a pas pu le terminer lui-même. Il était parti en Afrique, où il était parti à un autre moment faire la guerre en Europe. Donc, c'est pas un perfectionniste, Houston, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, c'est pas un homme qui veut achever une œuvre parfaite. C'est quelqu'un qui veut, par contre, vivre une expérience extraordinaire et la faire partager.
En même temps, c'est quelqu'un qui dit « tout doit servir l'idée ».
Oui, alors ça, c'est le côté narrateur. C'est l'homme qui garde le fil de son récit, même s'il a l'air de se perdre dans des méandres. Et il y a toujours, alors parfois, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a complètement oublié ce qu'il a commencé par dire. Et puis, pas du tout, il retombe sur ses pattes et il dit « et voilà pourquoi ». Il boucle merveilleusement, il a un sens du paraphe.
Thank you.
La Bible, 1965.
Plus qu'un pamphlet, c'est une version extrêmement personnelle, personnalisée même de la Bible, c'est-à-dire qu'au fond, il raconte les choses à sa manière et bon, les spécialistes de la Bible peuvent contester sa vision du déluge, sa vision de l'arche de Noé, sa vision de même de Caïn, Abel et Caïn, etc., ou de du paradis terrestre. Mais la manière dont Houston la raconte, il la rapproche de ses films à lui, de ses œuvres à lui. Et c'est un film dont certaines parties sont absolument parfaites. Je trouve par exemple justement que tout l'épisode de l'arche de Noé, d'abord, personne d'autre au monde n'aurait pu le filmer, car Houston a un rapport avec les animaux qui est un rapport de domptage et de fascination. Jamais un metteur en scène, et vous savez que le rôle de Noé, il voulait le faire jouer par Charlie Chaplin, qui aurait eu en effet le physique, à l'époque tout blanc, tout chenu, il avait le physique idéal pour jouer le rôle de Noé. Mais d'abord, il ne l'a pas fait, finalement, ça n'a pas marché. Et ensuite, il n'aurait jamais pu jouer avec des éléphants, des oiseaux, des serpents, des chameaux, comme l'a fait Houston. Car j'ai vu, moi j'ai assisté à ce tournage, à Cinecittà, et j'ai vu Houston charmer littéralement des animaux sauvages qui venaient lui manger dans la main. Et ça, c'est une chose vraiment... Là, il y a un don qui est tout à fait spécial, je sais pas, ou alors peut-être qu'il dégage une odeur, ou je pense que beaucoup, sa voix doit y jouer, car il a une voix très hypnotique et une voix très profonde, une basse merveilleuse, qui explique beaucoup la fascination de son récit quand il parle, mais je crois qu'il sait parler aux animaux et les calmer, enfin.
Malgré le formidable bruissement du monde, j'entendis pour la première fois battre ton cœur. Après avoir béni et sanctifié le septième jour, immobile dans le jardin du monde, je te regardais vivre.
Sur le plateau, au moment où on tourne le plan, il est presque invisible et il s'efface énormément et il dirige plutôt les choses par suggestion. Et après avoir beaucoup préparé les acteurs et préparé les personnages et préparé les plans, les choses se font. C'est pas quelqu'un qui crie, si vous voulez, dans un porte-voix. Il tient formidablement son équipe, mais il la tient par le charme, justement, par les choses qui chuchotent, ou par sa préparation et par la manière, la précision extrême de ce qu'il demande à son équipe et à ses acteurs. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est envahissant au tournage. Alors, quand vous avez affaire à des plateaux aussi gigantesque que celui de la Bible dont je parle, où il y avait en plus bon des centaines d'animaux, des dompteurs, etc., des cages, etc., des spécialistes de chevaux, des spécialistes d'hippopotames,
et les acteurs
aussi mêlés à tout ça. Mais là, dans ces séquences-là, c'était lui qui était l'acteur en plus. Difficulté supplémentaire, c'était lui qui jouait le rôle de Noé. Imaginez la Bible de manière aussi cosmique comme il l'a fait, en cinéaste Houston, je crois que lui seul pouvait le faire. Je pense que c'était justement, si vous voulez, la leçon de vie finalement qu'il avait intéressé. C'était montrer en quoi la Bible peut nourrir encore toute une existence et la nourrir vers l'avenir. Lui, il a été complètement agnostique. Je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs, mais donc c'était pas du tout une vision vaticane, puis ça a été tourné à Rome, c'est pas du tout une version ecclésiastique.
Des Misfits, Houston aurait dit à propos de ce film tiré d'un scénario de Arthur Miller: nous vivons dans une société où les chiens mangent les chevaux. Et c'est pour ça qu'il a fait ce film?
Non, je pense que c'est un mot comme ça qu'il a fait pendant le tournage du film, qui est une très bonne phrase, certainement. C'est vrai, je pense que, mais je ne sais même pas si c'est pas. Dans le scénario de Miller, ça.
Je crois, oui.
En tout cas, c'est ça qu'il a retenu, lui. C'est ça qu'il a retenu. parce que bon, c'est l'amour de Hewson pour les chevaux. Mais enfin, c'est un amour qui va très loin, puisqu'il place pratiquement les chevaux dans tous ses films. Bon, on peut même dire que c'est la conclusion de Au-dessus du volcan. C'est un cheval blanc qui s'échappe au galop et qui échappe à la mort.
Pourquoi ce chien tremble-t-il?
Oh, il a dû renifler l'odeur des chevaux. Il doit pas être loin, hein, Guido?
Mon petit, mon toutou.
Guido, c'est fini?
Ah non!
Idiot!
Non, non, il n'y est pour rien. Il a perçu dans le temps un coup de pied de cheval.
Non, c'est pas ça qui l'effraie, Sclepse. C'est nous. Qu'est-ce que tu racontes à présent, Guido? Je n'ai jamais brutalisé ce chien, voyons, tu le sais bien.
Ah, c'est une question de bon sens, Gay. Il sait qu'il y a des bêtes sauvages là-bas. Les chiens, eux aussi, l'ont été. Ils se rappellent ce moment-là?
Oh, il est monté assez souvent là-haut pour savoir ce qui se passera. Hein.
Il craint d'y laisser sa peau aussi.
Ouais. Viens, chérie. Installe-toi bien au chaud devant le feu.
Tu le tues?
Non, non, nous, on les vend à un marchand de Reno.
Les tues?
Enfin, ces chevaux-là n'ont aucune valeur, ils n'en ont que quand on les met en boîte. On en fait de la nourriture pour les chiens et les chats. Mais je croyais que tu le savais. Pourtant, tout le monde sait ça. Tu ferais peut-être mieux de dormir dans le camion. Il y a des serpents par ici.
Donc, les Misfits, je pense que c'est le fait que ce film raconte l'histoire d'une chasse aux chevaux, finalement, c'est ça qui lui a donné la motivation profonde de faire le film. Tous ces personnages s'additionnent harmonieusement dans l'aventure qui consiste à aller à la chasse aux chevaux.
Et ces gens-là, la plus grande horreur qu'ils ont, c'est le travail. Et ils vont chasser les chevaux, symbole peut-être facile, effectivement, de liberté, pour continuer eux-mêmes à être libres.
Ça ne change rien au fait que l'aventure doit être menée, et elle est menée parce qu'elle est action pure, et que c'est une manière de vaincre la vie, finalement. Et bon, ce sont les Misfits, parce qu'évidemment, ils sont des personnages déplacés, ce sont des personnages qui n'existent pas, enfin, qui ne participent pas à la construction de l'Amérique, à cette période particulière de l'histoire. Et d'ailleurs, à n'importe quel moment non plus, ce sont des personnages asociaux, complètement antisociaux, peut-être même, des personnages parasitaires. Mais c'est ça, au fond, les personnages...
Décalés.
Décalés, ce sont les personnages qui intéressent Houston, justement, ce sont des personnages qui sont complètement à part, qui mènent un combat parfois incompréhensible, hein, mais qui le mènent et qui ont, et gardent une dignité.
Wise Blood, traduit en français par Le Malin, film tourné en 1979 d'après un roman de Flannery O'Connor.
My name ain't Holy, my name is Hoover Schultz. And you better remember, friend, because I'm about to run you out of business. I mean, I'm going to be back here tomorrow night with a new prophet. I can find prophets for peanuts, friend. I'll do my own preaching, you understand me? You better watch it, because what you need, you know, is a little competition, you understand?
C'est un petit film qui a été fait avec peu de sous.
Laurent Andresse.
C'est un film qui a eu aucun succès commercial, et... pour une raison, je crois, assez explicable. C'est d'abord que c'est un film qui parle de religion et qui en parle d'une manière sinistre, cynique, moqueuse. Et que ça, en Amérique, déjà, c'est mal vu. Donc j'imagine comment il a pu être distribué là-bas. En Europe, c'est pas tellement, tellement mieux vu, malgré tout, malgré les comédies italiennes, surtout à ce niveau-là. Et puis, là, il est sorti probablement très mal distribué. Je me souviens qu'à Strasbourg, il avait fait une semaine dans une salle. Et voilà. Mais c'est un film qui est vraiment horrible. Alors moi, je m'en souviens comme d'une espèce de film, une espèce de film d'horreur. C'est aussi un destin, le destin, je crois, d'un, tant que je me souvienne, d'un faux
prêcheur.
Un faux prêcheur.
Un tourmenté.
Aussi fou, oui, complètement tapé dans sa tête, obsessionnel. Son obsession, c'est évidemment une espèce de pureté, de rachat, de volonté de rachat et de rédemption par rapport à on ne sait quelle tâche originelle, inexpiable, et qui donc torture tout ce qu'il y a autour de lui en se torturant lui-même à partir de son espèce d'exigence de pureté absolue, et qui finit, ça finit dans le massacre et dans le sang, puisqu'il se crève lui-même les yeux. Alors il y a de l'hémoglobine à la fin, exactement comme dans un film d'horreur, Poltergeist, ou je sais pas, des horreurs comme ça, ou même le massacre à la tronçonneuse. Donc c'est une fin complètement horrible, avec du sang qui éclabousse, des hurlements. Et la progression du film est vraiment, vraiment, vraiment intenable. Il se passe rien d'autre dans le film que la tension de ce type qui est tout le temps tendu à rompre comme ça, et qui à la fin rompt, puisqu'il se massacre lui-même, il se retourne contre lui-même.
Reflet dans un œil d'or, il y a un moment que j'aime particulièrement, c'est la chevauchée du soldat. Il est nu sur ce cheval. C'est un très très beau moment, vraiment très sensuel.
Mais je pense que c'est un moment de plénitude. Et que Huston, quand il met en scène des choses qu'il aime, comme les chevaux justement, il utilise le cheval comme un instrument de plénitude. Et ça, je crois que c'est quand même une des clés de Huston, le cheval. Je crois que c'est vraiment l'animal fétiche, mais plus que l'animal, l'objet fétiche, le personnage fétiche de Huston. Un personnage d'un humour extraordinaire, mais d'un humour qu'ils dirigent contre eux-mêmes en général. Ils sont tout à fait conscients du ridicule parfois de leur situation, et c'est ça qui fait leur force en même temps. Je pense que par exemple, prenez la seule comédie musicale qu'il ait jamais faite de sa vie. Qui aurait pu croire, ayant vu tous les films d'Huston, qu'il allait faire une comédie musicale? Ce film Annie. Bon, il y a des séquences chorégraphiées merveilleuses, il y a une aventure, une histoire. Un mélodramatique, d'ailleurs très très drôle. Mais les choses dont on se souvient sont les choses qui sont les plus proches de Huston. Par exemple, c'est cette petite fille qui apprend à se bagarrer dans les rues et qui aussitôt prend la position du boxeur. Pourquoi ? Parce que Huston est un boxeur et qu'il a réussi à son personnage de petite fille, de petite orpheline, à donner les attitudes d'un boxeur. Et je trouve que c'est formidable et ça fait sortir en même temps le film du côté Aude Rose. Je pense que Huston a beaucoup d'humour, qu'il a un rire extraordinaire et qu'il y a beaucoup de choses qui le font rire dans la vie, mais justement par ironie. Je ne pense pas bon que ça l'ait jamais intéressé de faire de la comédie, de faire des films, de faire des comédies. Et pourtant, bon, aussi bien dans un film comme L'honneur des Prisies, il y a des moments d'une drôlerie énorme, et que dans justement le personnage de Nicholson, qui est un personnage horrible, d'assassin professionnel finalement, qui est d'ailleurs doublé par une femme assassin encore plus professionnelle que lui, et ben il a réussi à mettre, il y a des ricanements de Nicholson qui sont complètement houstoniens, parce qu'en plus c'est son gendre. Alors my sweet man is gonna go when he goes, oh lordy. He's the kind of man needs the kind of woman like me. Oh, give me that drink now, Johnny.
No.
Johnny.
No.
But you promised.
So what?
You said that.
But you were right.
Je suis allée en Irlande où il avait une maison magnifique avec des chevaux, des terres merveilleuses. C'était très très beau, une très belle maison. Pas un château, mais un manoir. Enfin, une très très belle maison. Et il avait fait un film au Japon qui n'est pas non plus un de ses plus grands films, Le Barbare et la Geisha. Mais parler de ceux qui sont les meilleurs, mais enfin, c'était chambre. Mais il n'en était pas très content non plus parce qu'il n'avait pas pu faire le montage, si j'ai bonne mémoire. Oui, il avait une très belle maison remplie de sculptures, de peintures, d'objets qu'il avait rapportés de tous les pays qu'il avait visités. Et il avait justement tourné au Japon, il avait fait installer un bain comme au Japon dans les sous-sols. Il avait des chevaux, des animaux, oui.
Et quels sont ses peintres préférés? Je sais qu'il aime beaucoup Cimabue.
Ah oui, il aimait beaucoup. Ses peintres préférés, vous direz mieux que moi, il aime la peinture en général. Il aimait beaucoup les impressionnistes. Puis il aimait beaucoup l'art précolombien. Oui. Et alors, au Mexique, j'y suis pas allée, mais il vit dans une presqu'île. Il n'a pas le téléphone, il parle par Tokiwoki, sa secrétaire qui habite le Puerto Vallarta, où il a tourné La Nuit de l'Iguane, qui est un beau film aussi. Et oui, il a une maison sans cloison, sauf la salle de bain, c'est la seule pièce qui ait des cloisons. Mais il s'y plaît beaucoup, il dit toujours qu'un homme doit, vers la fin de sa vie, retourner vers la mer.
Mardi du cinéma, John Huston, l'aventure.
Quand je suis arrivée à Londres pour le voir la dernière fois, il m'attendait à l'aéroport. J'ai eu un choc parce qu'il était assis dans une chaise roulante avec ses tuyaux dans le nez. C'est impressionnant quand même. Lui était très à l'aise, comme un roi, assis sur son trône.
Avec Suzanne Flon, Robert Benayoun, Juan Luis Buñuel, Laurent Andrés, Jean-Marc Terrasse, Pierre Christin.
Peut-être que John Huston n'existe pas d'ailleurs et que c'est un personnage de bande dessinée. Peut-être que tout ça c'est une immense affabulation qui n'a jamais existé et que l'œuvre, la filmographie, la bibliographie de John Huston ne sont qu'une bande dessinée.
Une émission de Cécile Amcy, réalisée par Josette Collin, mixée par Antoine Lehambre et Jean-Pierre Juncker. Document d'archives, Institut national de l'audiovisuel.
Et je crois qu'un de ses regrets, ce sera de ne pas avoir vu la Chine et le pôle Nord.
Oh, this is the end. The end.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 janvier 1987.